RCF Alpes-Provence.
Fréquence Mistral.
RAM 05.
Émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Une émission en direct et en public, place Jean-Marcelin à Gap.
Émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale
pour les droits des femmes.
En direct et en public, Radio Chorale, l'émission qui secoue ton bocal.
RAM 05, RCF, Fréquence Mistral, c'est Radio Chorale.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les radios associatives RAM 05, Fréquence Mistral et RCF Alpes-Provence ont uni leurs forces avec le soutien technique de la ville de Gap et du syndicat Solidaire 05. Nous sommes actuellement en direct et en public sur la place Jean-Marcelin à Gap jusqu'à 13h30. Durant l'heure et demie qui vient, nous serons ravis de vous proposer trois tables rondes. Les invités de notre première table ronde nous rappelleront quelques chiffres sur la situation des femmes en France et sur le territoire haut alpin. Elles discuteront de la place des femmes en milieu carcéral ou encore des dispositifs de soutien pour les femmes victimes de violences. Dans un second temps, nous échangerons autour de la place des femmes dans la culture. Et enfin, une troisième table ronde traitera de la place des femmes dans le travail et dans l'entrepreneuriat. Je suis Ingrid de Fréquence Mistral.
Ingrid Legras. Alors, nous allons commencer cette émission en rappelant l'origine de la collaboration de ces trois radios. On va quand même accueillir Kevin Dervaux, donc une voix masculine dans ses voix féminines.
Et oui, une voix masculine quand même. Donc Kevin Dervaux, moi, donc je suis journaliste pour RAM 05. Et donc on a décidé là à trois radios de réaliser notre première émission collective, trois radios associatives. Pour une journée militante, une journée de lutte. Enfin, c'est une lutte qui est présente toute l'année, mais aujourd'hui, on a un petit peu plus de lumière et de son, en l'occurrence, pour propager tous les échos de ces engagements.
Sur la place Jean-Marcelin, dans le froid aujourd'hui, quand même.
Il fait un peu froid, c'est vrai, mais du coup, on se réchauffe les oreilles aussi.
Et grand soleil également.
Et grand soleil, oui, en effet. Alors, trois radios associatives avec des programmes tournés aussi vers la parole des femmes.
Tout à fait.
Qu'on essaye de porter aujourd'hui, mais pas seulement, un peu toute l'année aussi.
Et donc, c'est une première émission collective et c'est une dynamique qu'on a envie de maintenir tout au long de l'année. Donc, bah voilà, première émission en direct et en public à trois radios associatives et on espère que c'est loin d'être la dernière.
Alors le message c'est si vous voulez nous voir, venez sur la place Jean-Marcelin à Gap.
Et vous pouvez nous écouter en direct aussi sur le 93.7 à Gap.
Et sur le 107.3 à Gap et aussi en toute la région PACA aujourd'hui.
Et sur le 87.7 à Gap et sur tout le département des Hautes-Alpes et à Digne également pour RCF. Alors, nous allons commencer, hein, puisque nous avons fait une grande préparation. Merci Kevin, hein. Vous nous laissez le micro maintenant.
C'est ça maintenant, je
à la technique.
Laisse le plateau aux voix féminines.
Allez, donc un programme.
Un premier plateau, donc table ronde. Ingrid, vous pouvez nous présenter le plateau ?
Alors, pour cette première table ronde, nous allons accueillir Johanna De La Rosa, donc déléguée départementale à l'égalité femmes-hommes, qui ne va pas tarder à arriver, Delphine Defrat du SPIP et Angélique Lambert pour le CIDFF 05.
Merci d'être autour de cette table et autour de ces micros. Alors, nous allons commencer donc avec le SPIP et Delphine Defrat, bonjour.
Bonjour.
Alors, que veut dire l'acronyme SPIP ?
Alors, l'acronyme SPIP veut dire Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. C'est donc un service du ministère de la Justice. Et dans le ministère de la Justice, il dépend de l'administration pénitentiaire.
Alors, c'est quel public le service public, je reprends ma question, à quel public le service s'adresse-t-il ?
Alors, c'est un service public, vous avez bien raison, puisque c'est le ministère de la Justice. Le public, en fait, que nous suivons est uniquement le public placé sous main de justice, c'est-à-dire soit des personnes qui ne sont pas encore condamnées, c'est le cas pour les personnes en contrôle judiciaire, soit très majoritairement des personnes qui sont condamnées, et nous les suivons sur toutes leurs mesures de justice qui peuvent être un travail d'intérêt général, des jours amende, un sursis probatoire ou un emprisonnement, que ce soit en maison d'arrêt ou en dehors de la maison d'arrêt, c'est-à-dire en bracelet électronique.
Qu'est-ce que ça représente sur le département des Hautes-Alpes ?
Alors, sur le département, c'est 510 dossiers aujourd'hui. Et sur ces 510 dossiers, puisque nous sommes sur la journée du droit des femmes, nous avons 471 hommes et 37 femmes, ce qui est révélateur, je pense, de quelque chose sur la délinquance et ce qui se passe dans le département, une répartition genrée très nette qu'on retrouve aussi au niveau national et régional.
Et justement, dans le cadre des incarcérations, existe-t-il un établissement pénitentiaire qui puisse accueillir les femmes dans les Hautes-Alpes ?
Alors non, dans les Hautes-Alpes, il y a une maison d'arrêt qui a une capacité qui est de 36 ou 37 places qui ne concerne que les hommes. Donc si toutefois des femmes doivent être incarcérées, elles doivent être incarcérées principalement, c'est à Marseille. Mais de toute façon, si je vous donne les données régionales de personnes détenues, les femmes, c'est 2,9%. Seulement des personnes détenues. Par contre, ça signifie en effet, si toutefois les femmes doivent être incarcérées, qu'elles sont loin de leur famille et de leur environnement si elles sont originaires des Hautes-Alpes. C'est aussi le cas pour les hommes s'ils ont des peines de plus de un an.
D'accord. Et est-ce qu'il y a quel type d'accompagnement va proposer le SPIP pour les personnes qui sont soit en réinsertion, soit justement en délai de probation ?
Alors, donc justement, le SPIP, il a deux volets. Hein. Il a un volet probation, donc c'est le suivi des mesures et des obligations et des interdictions. Donc ça, c'est le volet répressif. Et puis, il a un gros volet qui est de lutte contre la récidive. Donc, de travail avec les personnes sur lever tous les freins pour éviter de se retrouver de nouveau placé sous main de justice. Donc que ce soit des soins, s'il y a des problèmes d'addiction, l'insertion professionnelle, l'environnement, tout l'environnement social. Voilà, donc on a un gros travail d'accompagnement en partenariat avec les autres services publics ou les associations dans le département.
Et donc justement sur la question des femmes dans cette réinsertion professionnelle, avec quel type de structure vous travaillez pour des
Alors on travaille en fonction des situations, on travaille beaucoup avec le soin s'il y a des problèmes d'addiction, puisque c'est un des gros soucis quand même dans le département, et notamment des addictions à l'alcool. Hein. Donc avec le XAPA dans le nord ou dans le sud du département, avec aussi l'hôpital, le CHBD et ses structures qui sont dans le nord ou dans le sud du département pour tout ce qui est rapport qu'il peut y avoir sur des situations de violence ou voilà, tout ce qui est. On travaille beaucoup avec les structures de soins et aussi avec les structures d'insertion par l'activité économique pour remettre un pied dans le travail. On travaille aussi en partenariat avec le CIDFF qui est à côté de moi, puisque nous suivons des auteurs de violences et que le CIDFF suit les victimes. Voilà. On est aussi le SPIP, le partenaire qui, comme on a les bracelets électroniques, on a aussi les barres, je ne sais pas si... voilà, les bracelets anti-rapprochement. Voilà, je laisse.
Alors justement, vous parliez d'un sujet comme l'addiction à l'alcool. Quels sont les moyens que le SPIP, dont le SPIP dispose ?
Alors quand vous pensez par les moyens, vous parlez de quoi en fait ?
Est-ce que voilà, comment accompagnez-vous les femmes ?
Ah ben on accompagne. En fait, on est une équipe hein, pluridisciplinaire avec des conseillères et des conseillers en insertion donc pénitentiaire d'insertion professionnelle qui accompagnent les personnes, les reçoivent et les accompagnent et font le lien avec les partenaires. On a aussi une assistante sociale, un psychologue, des agents pour les bracelets électroniques. Voilà, on est une équipe vraiment pluridisciplinaire qui fait un accompagnement global, mais toujours en lien avec le droit commun. Voilà, on ne fait pas à la place d'eux.
Et on en parlait juste avant, notamment des victimes. Quels dispositifs sont mis en place pour protéger les femmes, notamment menacées par leurs compagnons, leurs ex-compagnons? Que mettez-vous en place?
Alors, il faut savoir que dans le département, selon nos statistiques, on est à un peu plus d'un quart des dossiers qui sont des dossiers de vif, hein, de violences intrafamiliales. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est très, 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 très majoritairement des hommes. Hein. On suit seulement deux femmes, hein, voilà, pour vous dire. Donc, ce sont principalement des hommes, avec deux dispositifs qui sont mis en place. Un qui est beaucoup plus facile d'accès et bien mis en place, qui est le TGD, le téléphone grave danger, qui existe depuis une dizaine d'années. À ce jour, il y a 32 TGD actifs et 20 qui sont non attribués dans le département. Donc le TGD, il n'y a même pas besoin d'avoir déposé plainte normalement. C'est vraiment une situation de danger. C'est une compétence du parquet. Hein, c'est le parquet qui le donne après l'évaluation faite par une association. Sur proposition, ça peut être du CIDFF, mais je pense que ma partenaire à côté en parlera bien mieux que moi. Donc ça permet aux femmes, en fait, d'avoir un téléphone où elles appuient si elles se sentent en danger, s'il y a une menace de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. Général ex-partenaire quand on en est là, et ça permet une intervention des services de police. C'est quelque chose qui fonctionne très facilement. Le bracelet anti-rapprochement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une géolocalisation et de la victime et de l'auteur avec une délimitation en kilomètres qui fait que quand l'auteur se rapproche trop près de la victime, ça sonne. Là, c'est par une boîte de sécurité qui renvoie dans nos services, hein, puisqu'on est un des pôles qui reçoit les alertes. Et aujourd'hui, dans le département, il n'y a pas de barre. Il y en a eu deux dans les dernières années seulement. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place et c'est aussi plus compliqué parce que c'est un dispositif qui intervient qu'après un jugement, que ce soit au civil, donc auprès de la juge d'affaires familiales, ou au pénal.
Et en cas de rapprochement trop proche, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Les données sont transmises aussi au
En l'instant, en direct à un pôle à Securitas, en fait, qui gère, et ensuite au pôle centralisateur avec intervention des forces de l'ordre dans la foulée. Et appel pour dire vous rapprochez, vous êtes trop près, éloignez-vous. Voilà.
Est-ce que les mineurs sont également accompagnés par le SPIP?
Non, alors les mineurs, il y a la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui s'en occupe. On peut avoir des mineurs, nous, en bracelet électronique, mais c'est pas nous qui on gère juste les incidents, pas le suivi des mineurs.
Est-ce qu'il y a des dossiers particulièrement aujourd'hui qui méritent une attention, une démarche particulière pour le SPIP? Il faut mettre l'accent sur quoi? Pour faire avancer les choses.
Sur une journée sur le droit des femmes, il faut mettre l'accent sur le fait que les violences liées au genre, comme je vous l'ai dit, sur les statistiques que je vous ai données, révèlent quand même qu'il y a un souci. Comment ça se fait qu'on ait autant d'hommes suivis dans le département et condamnés pour des faits de violences intrafamiliales? Il y a vraiment, donc je vous ai dit, hein, on a deux femmes pour 114 hommes, donc il y a quand même quelque chose qui se joue en termes de violences vraiment liées au genre, et là-dessus, c'est une prise en compte général de la société. C'est pas que la justice qui va régler par des interdictions, des obligations et des condamnations ce problème, et c'est un problème à prendre de manière beaucoup plus large. Qu'est-ce qui permet aux hommes aujourd'hui de se sentir encore en capacité et de pouvoir agir comme cela? Enfin, certains hommes, évidemment, je ne parle pas de tout le monde.
Est-ce que ça passe par l'éducation?
Oui, mais là, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. En tant que directrice du SPIP, je laisse mes partenaires répondre.
Je vais faire le lien, justement. Alors, on vient d'accueillir aussi Johanna de la Rosa, donc déléguée départementale à l'égalité femmes-hommes. Donc, on va vous laisser vous exprimer aussi sur ces questions. Donc, déjà, pour vous présenter, quelle est votre fonction exacte? Que faites-vous à votre poste?
Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Donc mon poste, c'est d'une certaine manière, c'est le service déconcentré, enfin on va dire c'est la représentation au plus près des territoires du ministère à l'égalité femmes-hommes. Donc on a un ou une déléguée par département, il y a une direction régionale et puis on a un service central rattaché au ministère sociaux. Ce poste, qui est sous l'autorité du préfet, a vocation à déployer les politiques publiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, de s'assurer d'une mise en cohérence des dispositifs qui sont déployés. On a également une enveloppe financière à notre main pour financer des dispositifs, que ce soit de lutte contre les violences. Effectivement, une grande partie du budget part dans ces dispositifs-là, mais on a aussi tout un éventail d'actions de prévention, notamment, qui sont financées. Et puis il y a un très gros rôle aussi d'animation de réseau, de mise en partenariat, parce que les enjeux de l'égalité, même si c'est une politique publique qui est pilotée par l'État, les collectivités locales peuvent tout à fait s'en emparer, et puis c'est aussi des partenariats nécessairement avec les acteurs associatifs et la société civile.
Est-ce qu'il y a beaucoup de structures qui s'occupent de ce sujet sur l'égalité femmes-hommes sur le département?
Alors, la réponse n'est pas évidente, parce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, non, il y a peu de structures spécialisées, mais finalement, ce sujet, il doit être intégré, c'est-à-dire que c'est une politique publique qui est à la fois, qui a une double approche, une approche intégrée et spécifique. Intégrée, ça veut dire que tout acteur public, mais aussi privé, les entreprises, le monde associatif, devrait avoir en tête ces enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, ce biais genré que peuvent produire certaines actions, et donc l'intégrer dans leurs réflexions à leurs actions. Après, quand je vous parlais de politique publique spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont spécifiques pour corriger des inégalités, et c'est aussi pour ça qu'il y a des associations spécialisées qui existent sur le territoire en la matière. Après, on est un petit département, donc forcément il y a un nombre assez restreint d'opérateurs, mais ça aussi c'est ses avantages.
Et vous parliez juste avant de dispositifs. Quels sont-ils, ces dispositifs?
Alors, notamment en matière de lutte contre les violences, alors vous avez invité Angélique Lambert, donc directrice du CIDFF, qui est une association incontournable en la matière, en particulier sur ce département. Donc je veux pas non plus prendre toute la place, mais on finance pas mal de dispositifs qui sont portés par cette association, en particulier l'accueil, l'accompagnement, l'écoute, l'information pour les femmes victimes de violences. Mais cette association, elle porte avant tout son nom du fait d'un déploiement de permanence d'information juridique. C'est un acteur historique en la matière, puisqu'au départ, le cœur de métier de ces associations, c'était vraiment de permettre à toutes les femmes d'accéder à leurs droits. Donc voilà, la préfecture donne un agrément, délivre un agrément au CIDFF pour déployer ces permanences d'information juridique. Et je vous donne un autre exemple. Un autre dispositif, c'est l'espace à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est porté par le planning familial 05. Il faut savoir qu'on déploie, c'est ce qu'on appelle des EVARS hein, dans le jargon, dans tous les départements, parce que les droits à la reproductif, les droits à la santé sexuelle, mais plus globalement, l'éducation à la vie affective, c'est primordial en termes de prévention aussi.
Alors Johanna De La Rosa, vous parliez d'action, il y a des événements autour de la journée du 8 mars et bien au-delà. Vous pourriez nous en présenter quelques-uns et au moins la ligne directrice de tous ces événements?
Oui, bien sûr. Donc comme je vous disais, une de mes missions, c'est aussi d'animer un réseau, et l'enjeu, c'est aussi d'impliquer des partenaires, comme je vous disais, dont le cœur, les missions premières ne sont pas forcément tournées vers la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais qui l'intègrent de petit à petit. Donc régulièrement, on fait des réunions annuelles pour préparer ces journées, faire se rencontrer les différents acteurs associatifs, mettre en commun les forces, et ce qui nous donne cette belle programmation aujourd'hui à destination du grand public. Donc ce serait difficile pour moi de mettre en lumière quelques actions, mais peut-être vous inciter. Alors sur GAP, aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a notamment un atelier autour de la discrimination genrée dans le sport tout à l'heure à la médiathèque, donc pour les plus de 14 ans. On peut aussi encore parler d'un concert spécial à l'occasion du 8 mars au Musée Muséum pour découvrir des musiciennes peut-être un peu moins connues, des lectures à voix haute. Donc ça, c'est une portée par l'association Littéra 05 qu'on choisit de mettre à l'honneur des femmes iraniennes et afghanes à cette occasion-là. Ou encore ce soir, donc si vous n'avez pas pris vos places, je vous encourage à le faire, le ciné-débat porté par l'association Féministes Vent Debout. Socoristas, donc, qui est un film réalisé sur la lutte des militantes argentines pour accéder au droit à l'IVG, et aussi, en attendant d'avoir ce droit, comment elles se sont organisées pour accompagner des femmes qui avaient besoin d'interrompre une grossesse. Donc voilà, ça c'est que quelques exemples de la journée d'aujourd'hui. Ça va continuer ce week-end. Le programme est accessible sur le site de la préfecture. Je ne sais pas si vous aviez en tête peut-être d'autres actions, mais voilà, au-delà des traditionnelles associations, CIDFF, planning familial, on a d'autres associations qui se mobilisent. Je pense en particulier à, donc, je m'excuse encore une fois pour l'acronyme, la communauté professionnelle territoriale de santé du Briançonnais Écrin, donc qui est une association de professionnels de santé en libéral sur l'Argentière et le Briançonnais, qui propose un ciné-débat aussi à l'Argentière ce soir autour du film Jusqu'à la garde.
Alors ça se prolonge jusqu'au 17 mars.
Tout à fait. Alors effectivement, la tradition veut qu'on le fasse le 8 mars. Comme vous le rappeliez, le nombre d'acteurs n'est pas forcément exponentiel. Donc on n'a pas toutes et tous le don d'ubiquité. Il faut aussi étendre ces actions un peu plus loin pour permettre à toutes et tous de participer. Donc notamment peut-être faire la lumière aussi sur le club Les Entreprises S'Engagent, qui organise lundi soir, donc c'est à destination de toutes les chefs et chefs d'entreprise, un théâtre au forum pour montrer que les entreprises ont aussi un rôle à jouer en matière d'égalité.
Alors juste le 17 mars, ça se finit par une initiation self-défense féminine. Donc ça projette quand même sur l'avenir. Il faut savoir se défendre.
Alors je ne sais pas s'il faut savoir se défendre. Je pense qu'il faudrait surtout apprendre aux agresseurs à ne pas agresser. Et donc notamment aux hommes et aux jeunes garçons. Après, ces initiations, elles n'ont pas forcément pour vocation à apprendre littéralement à se défendre. Elles sont là aussi pour se rassurer en tant qu'individu, en tant que femme, sur notre capacité à agir, donc plutôt en termes d'estime de soi. Après, c'est une initiative donc de cette association, mais voilà.
Alors on entend un petit peu de bruit de fond, voilà, il y a des travaux, peut-être quelqu'un a envie de faire des travaux à ce moment-là. Bon, c'est rien, je pense qu'on nous entend, donc j'espère qu'on ne vous dérange pas, ça ne se dérange pas trop l'antenne. Merci beaucoup, Johanna. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Si je peux me permettre, vous me parliez de la programmation. Effectivement, il y a aussi des expositions qui sont visibles jusqu'au 15 mars à peu près, notamment dans les centres sociaux des Pléiades ou encore le centre social Beauregard. Donc je vous encourage aussi à prolonger la journée du 8 mars. Et comme ça a été rappelé, je crois, en préambule, c'est toute l'année en fait.
Et toute l'année, effectivement, c'est ce qu'on allait rappeler. Eh bien, merci beaucoup, Johanna De La Rosa. On va donner la parole aussi à Angélique Lambert du CIDF F05. Donc tout d'abord, on va commencer avec une question assez simple. Qu'est-ce que veut dire le CIDF F05? Qu'est-ce que c'est?
Bonjour, alors le CIDFF, c'est le centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Hautes-Alpes.
Et alors, quelles sont vos missions?
Alors le CIDFF a plusieurs missions. Je vais commencer par la mission, comme le disait Madame De La Rosa, la première mission à l'origine de la création des CIDFF, c'est de permettre un accès aux droits. Pour toute personne, donc un accès aux droits qui s'organise à travers des permanences juridiques un petit peu disséminées sur l'ensemble du département, donc sur Briançon, Embrun, Saint-Bonnet, Guillestre, Gap bien évidemment, Serres, Vennes et Laragne. La deuxième mission, donc le CIDFF est composé d'un pôle violence à travers deux dispositifs. Donc un dispositif d'accueil de jour qui permet aux femmes victimes de violences de pousser la porte du CIDFF du lundi au vendredi sans rendez-vous. Ça peut être le premier petit diagnostic sur la situation, sur la problématique, les difficultés. Ça peut être aussi un moment de répit, un moment de mise en sécurité. Accueil de jour ouvert du lundi au vendredi sans rendez-vous. Ensuite, le deuxième dispositif sur le pôle violence est le lieu d'écoute, d'accueil et d'orientation pour les victimes de violences, où là, on est déjà rentré dans l'accompagnement et dans la prise en charge de la victime. Donc ce sont des accompagnements qui sont plus ou moins longs avec au regard de la complexité des situations et du vécu des victimes, des accompagnements qui peuvent s'interrompre, reprendre, donc sur du moyen, parfois long terme, plusieurs années. Donc sur le pôle violence, on propose un accompagnement psychologique à travers des prises en charge individuelles, mais également des groupes de parole, donc dans le collectif, qui offre aux victimes un espace où venir échanger avec d'autres personnes qui vivent des choses complexes en termes de violences sexistes, sexuelles, conjugales, voilà. Donc des groupes de parole le jeudi matin à travers différents thèmes qui changent en fonction des situations, des demandes, des besoins et parfois aussi de l'actualité.
Vous mettez aussi en place des actions de prévention, notamment dans le milieu scolaire?
Oui, alors je finis sur les missions principales du CIDFF. Le CIDFF aussi a une mission d'accompagner les femmes victimes dans l'accès à l'autonomie sociale, personnelle et professionnelle. Donc on a une partie visée emploi, mais avec vraiment la spécificité CIDFF, c'est-à-dire en prenant en compte les difficultés que rencontrent les femmes victimes de violences, là aussi sur de la prise en charge individuelle ou collective. Sur le CIDFF, une des missions des CIDFF, effectivement, est de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Donc, en fonction des tranches d'âge, on fait cette distinction-là au niveau de la détermination. Donc, nous intervenons dans différents établissements scolaires. Collège, lycée, sur la question de l'égalité. Donc on passe évidemment sur la question des stéréotypes de genre, la question du consentement. On travaille sur la question des compétences psychosociales, c'est-à-dire on essaie de communiquer, d'échanger et d'éduquer. Hein. Finalement, c'est une question d'éducation sur comment est-ce que je dois me positionner, me comporter et quels sont les comportements qui peuvent être inadaptés vis-à-vis de l'autre. Donc, vous le disiez tout à l'heure, la question de la prévention sur les violences, on est convaincu que ça doit passer par une éducation, mais très très jeune, chez les tout petits. Et en ce sens, le CIDFF intervient aussi auprès de jeunes enfants à partir de 3 ans dans le cadre d'Égalicompte. Nous proposons aussi des jeux sur l'égalité et aussi des supports cinématographiques, des dessins animés pour vraiment sensibiliser même les tout petits sur la question de l'égalité et des violences.
Est-ce qu'il y a une différence entre les départements ruraux comme le nôtre ou en milieu urbain ?
Alors la violence, malheureusement, elle existe en milieu urbain et en milieu rural. Une des spécificités est que quand une victime habite dans une vallée excentrée, éloignée, c'est un petit peu la double peine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément l'accès aux droits, il y a moins de communication, la question de l'isolement, la question de la mobilité. Donc ça renforce la difficulté pour les victimes qui vivent en milieu rural. Mais en ce sens, des actions aussi sont menées. Et notamment aujourd'hui, le 8 mars à 17h, une signature de convention avec l'association départementale des maires ruraux pour mettre en place des dispositifs spécifiques pour permettre aux vallées éloignées d'accéder aux mêmes dispositifs et aux mêmes droits pour les personnes qui y habitent.
Donc c'est un souci pour vous, la ruralité quand même aussi.
C'est un vrai sujet sur lequel challenge. Il faut œuvrer et réfléchir.
Très bien. Donc nous avons vu votre actualité. Nous allons peut-être faire une pause musicale. Alors la pause musicale, c'est vous la spécialiste, Ingrid ?
Alors la pause musicale, vous allez écouter un morceau qui s'appelle No, d'une artiste britannique qui s'appelle Billy No Mates. Et c'est un manifeste féministe sur le pouvoir du non.
Please, baby. No. No, when they shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them. You have my word. Everybody twist for me.
Alors c'était le morceau No de la britannique Billie No Mates, on l'a dit juste avant, un manifeste féministe sur le pouvoir de dire non.
Nous allons passer donc dans ce deuxième plateau, cette deuxième table ronde de cette journée des droits des femmes et sur un regard croisé sur la place des femmes dans la création artistique. Alors nous recevons quatre invités autour de ces micros, donc Cécile Brochoire, Caroline Kim Morange, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Nous avons Josette Mars également.
Et Florence Brochoire.
Voilà.
Voilà, la sœur de Cécile Brochoire.
Alors, on va vous demander de vous rapprocher bien du micro quand vous parlez. Alors, nous allons commencer par vous demander votre parcours. Est-ce que, en gros, parce qu'on ne va pas vous demander de tout raconter, mais est-ce que vous pourriez vous présenter, par exemple, Josette Mars?
Oui, ben, mon parcours, je me suis investie en 73 pour en créer le planning familial sur Gap. Et puis en 80, on a mis l'association en sommeil parce que il y a eu la création des délégués aux droits des femmes, plus les centres de planification. Donc on pensait que les choses allaient se régler. Et puis il y a 10 ans, quand des jeunes de Marseille sont remontés pour réinvestir un planning, je suis repartie avec elle, voilà. Mais actuellement, je suis toujours adhérente au planning, mais je suis dans deux associations, Féministe Vent Debout, qui fait venir Caroline pour le film sur l'Argentine, sur les féministes argentines, et à l'association Toute pour Une, qui gère une biscuiterie d'insertion à Chorges. Rapidement.
Donc, on vous présente Caroline Kim Morange. Vous êtes réalisatrice.
Oui, alors, mon parcours, je suis aussi journaliste. C'est comme ça, essentiellement, que je gagne ma vie. Et en 2018, j'ai commencé à réaliser un long métrage documentaire. Donc, j'ai fait une formation avant aux ateliers Varan à la réalisation de documentaires. Et donc, voilà. Et c'est d'ailleurs en Argentine, en faisant ce documentaire, que j'ai que je me suis formée politiquement, vraiment, par rapport au féminisme. Et donc, depuis, j'ai réalisé ce long métrage qui circule un petit peu en France, Socoristas, qui s'appelle. J'ai réalisé un autre film sur les violences faites aux femmes, dans lequel des femmes prennent la parole avec des slams, des textes poétiques, et prennent l'espace avec des chorégraphies autour des violences subies en tant que femmes ou filles.
Donc le message passe par la caméra.
Pour l'instant, le message passe, en tout cas ces messages-là passent par la caméra, tout à fait.
Alors Florence Brochoire.
Oui, bonjour. Alors moi je suis photographe indépendante. Je travaille beaucoup pour la presse, pour Le Monde, pour Libération, pour La Déferlante qui est une revue féministe, pour Elle, enfin pour plein de titres différents. Et j'ai un travail aussi personnel, soit en résidence, soit des travaux que je développe moi-même, beaucoup sur la place des femmes dans la société. Voilà.
Donc Cécile Brochoire, que nous connaissons bien sur le département et dans le domaine de la culture, hein, vous êtes metteuse en scène.
Voilà, metteuse en scène et directrice de la compagnie Chabrac,
qui est implantée donc sur Gap depuis quelques années. Je vais pas les compter parce que ça, je sais plus d'abord. Donc directrice de la compagnie et sur des projets qui impliquent beaucoup les publics sur le département et qui souvent aussi mettent en avant les invisibles en fait, ceux dont on n'entend pas beaucoup les voix et en l'occurrence la voix des femmes très très souvent voilà dans les projets.
Quel est votre regard justement sur une journée, le 8 mars, la journée des droits des femmes? Je me tourne peut-être vers Josette, Marc.
Oui, ben, je pense que c'est bien qu'on insiste sur la journée des droits des femmes parce que ça a été longtemps la journée des la fête des femmes. Et là, on est tout à fait.
Et des promotions.
On réagit violemment quand c'est ça parce que, en fait, c'est bien qu'il y ait une journée, mais en fait, c'est important aussi qu'il y ait un militantisme qui dure toute l'année, quoi. Et je crois que c'est le cas.
Ça permet d'avoir une petite fenêtre peut-être de visibilité en fait. Ouais, parce que le problème c'est ça, souvent c'est la visibilité des projets et des combats en fait. Voilà.
Bon,
c'est
une toute et d'ailleurs, petite fenêtre. Je trouve que sur Gap, pour cette journée, il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de choses, et on est très contente de ça.
Et sur le plan artistique, hein, je sais pas, mes collègues opineront peut-être, mais effectivement, on a un peu l'impression de travailler à fond pendant une, deux semaines et que ça retombe un peu après, sur ces sujets-là, disons, en tout cas. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il y a le 25 novembre aussi, un petit peu. Voilà, mais il y a un peu deux gros moments où on parle et puis après, c'est un petit peu un peu plus le vide.
Oui, après, il y a des revues, c'est vrai, spécifiques qui en parlent sans arrêt tout au long de l'année. Donc, ça dépend aussi dans quelle sphère. Mais c'est vrai que, en tout cas, il ne faut jamais considérer que les choses sont acquises. Il faut toujours des piqûres de rappel. Oui. Si le 8 mars peut être une piqûre de rappel, alors il faut continuer. Mais c'est sur toute l'année, effectivement, qu'il faut rappeler ces sujets.
Voilà. Cécile, vous avez un avis?
J'ai un avis. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est un travail de fond et un peu permanent, en fait, hein, parce qu'effectivement, on est sur le pont à longueur de temps, soit pour défendre la compagnie, l'existence, enfin, en ce qui me concerne, hein, l'existence de la compagnie pour qu'elle perdure, pour qu'elle s'inscrive dans le temps, dans le travail. Et puis après, avec les publics, et défendre des salaires corrects, le travail des personnes, etc., etc. Donc, c'est vrai que là, c'est un petit pic de visibilité, mais finalement, le travail, il est souvent sourd et il est invisible, mais il est bien présent en toile de fond toute l'année, en fait.
Et justement, on parlait de ce travail de visibilisation et ce travail qui se fait toute l'année. On parle notamment des femmes dans les structures culturelles. Aujourd'hui, qu'en est-il des femmes qui vont notamment être à la direction de structures culturelles? Est-ce que, au niveau des chiffres, on sait que c'est encore assez complexe et vous, dans vos domaines respectifs, qu'en est-il en fait?
Alors, en photographie, il y a de plus en plus de femmes photographes. On a mis du temps, mais il y en a de plus en plus. Au niveau des directions, des services photos, je ne saurais pas vous faire là comme ça. J'avoue que je ne connais pas les chiffres. Il y a énormément d'iconographes, par contre. C'est un métier très féminin, donc dans les services photos, il y a énormément de femmes. Après, au niveau des rédacteurs en chef, c'est vrai que...
D'ailleurs.
Oui, rédacteur en chef et rédactrice en chef, c'est vrai que c'est comme ça. J'imagine, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est ça.
Cécile, il y a plus de programmateurs aussi, de programmeurs, pardon, sur programmateurs.
Programmateurs.
Voilà. Ouais. Hommes dans les théâtres.
Oui, alors ça, c'est en train de se. Enfin, a priori, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent aux directions des théâtres. C'est ce qu'on voit apparaître quand on suit effectivement là sur les scènes conventionnées. Il y a de plus en plus de femmes. Cependant, pour l'instant, on reste sur une majorité d'hommes. C'est pas encore acquis du
la
tout
parité.
La parité, non, pas du tout.
En réalisation audiovisuelle.
En cinéma. En général, les femmes disparaissent au fur et à mesure que les budgets augmentent. C'est-à-dire, il y a pas mal de femmes là où il y a vraiment pas d'argent, beaucoup de femmes. Il y a de moins en moins de femmes au fur et à mesure que les budgets augmentent. Et c'est vrai tant du point de vue de la réalisation que toutes les équipes techniques. chef opératrice, etc. C'est la même chose. Donc, bah, il y a une association 50-50 qui s'est créée pour, voilà, justement, femmes à la caméra aussi, femmes à la caméra, vraiment les techniciennes qui se mettent, voilà, qui se font connaître et qui disent on est tout aussi compétentes évidemment que les hommes. Maintenant, le CNC a mis, alors je sais pas exactement quelles sont les modalités, donc le Centre National de la Cinématographie a mis en place des exigences de présence de femmes dans les équipes pour certaines subventions. Du coup, ça donne vraiment un coup de boost. Ça a vraiment été noté, c'est-à-dire que il y a ils font plus appel. Du coup, ils se disent il nous faut une femme, sinon on va pas avoir la subvention. Et du coup, ça aide. Voilà, comme quoi ça, les quotas, on les critique beaucoup, mais en tout cas concrètement, les femmes notent que ça aide bien dans le secteur.
Alors justement, je me tourne vers Josette Mars. Quand vous voulez programmer un film de femme, est-ce que vous savez où taper ?
Oui, mais en fait, c'est aussi un peu le hasard, parce qu'on recherche. En fait, moi, j'avais personnellement soutenu le film de Caroline, et quand elle a sorti son film, je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle voulait venir à Gap, tout simplement, quoi. Mais ce qui est important, c'est aussi de contacter un public qui n'est pas sensibilisé. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire à Féministes Vent Debout, et on a fait déjà d'autres manifestations, parce que notre objectif, c'est bien de développer, de promouvoir l'égalité femmes-hommes, mais surtout que les femmes se rapproprient leur histoire pour être capable d'analyser un peu ce qui se passe actuellement. Et notre problématique, c'est de toucher un public qui n'est pas dans notre
petit déjà soin. Convaincu
pas ouais. convaincu mmh. Voilà,
ça c'est très important.
Et justement, ce documentaire que vous allez présenter, Socoristas, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer qui sont les Socoristas, justement ?
Alors, Socoristas, donc c'est un mot espagnol qui signifie secouriste, qui a été choisi par un réseau de groupes féministes argentins qui font une action en fait d'accompagnement à l'avortement. Donc un petit peu, c'est un peu similaire à ce que faisaient les personnes du MLAC, donc du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception en France dans les années 70, c'est-à-dire avant la légalisation en France, le fait d'aider des femmes à accéder à l'avortement malgré l'interdiction. Là, c'est la même chose, sauf que depuis, y a des médicaments qui ont été inventés, enfin qui ont été mis au point et qui sont commercialisés. Donc elles le font que par médicaments. Et donc l'idée, c'est de donner toute l'information aux femmes qui en ont besoin sur comment faire un avortement sûr. Donc y a plusieurs étapes. Les femmes appellent. Ensuite, il y a une rencontre de groupe pour leur donner toute l'information sur voilà à telle heure il faut prendre si vous prenez la première étape à telle heure, la première pilule, ensuite il va falloir faire telle et telle et telle étape, si les inquiétudes, si vous avez des inquiétudes, voilà en gros ce qui peut se passer et voilà comment y répondre, enfin globalement, voilà. Et après, elle reste en contact au moment où la femme fait son avortement. Elle le fait chez elle ou chez une amie, mais les Socoristas ne sont pas présentes physiquement. Elles accompagnent par téléphone. Et donc, le film, il suit tout ça, en fait, tout cet engagement. Il suit, en fait, aussi ces femmes à un moment historique de l'Argentine, qui est le grand débat sur la légalisation de l'avortement qui a eu lieu en 2018. Qui d'ailleurs n'a pas fonctionné, c'est-à-dire en fait c'est un débat devant le Parlement, il y a eu plusieurs votes et finalement le projet de loi a été refusé. Le Sénat a rejeté, et bon, ça a été légalisé, mais 2 ans après. Et donc en fait le film s'inscrit dans cette histoire-là. Il parle, c'est pas le film du débat. On voit pas tant le débat que ça, mais on voit les Socoristas. C'est vraiment elles qu'on suit, c'est leur engagement, c'est leur collectif, c'est la manière dont elles s'accompagnent entre elles, c'est la manière dont elles écoutent les femmes et elles les accompagnent. C'est vraiment un groupe de femmes qui font une action vraiment de résistance face à des interdits, et de comment elles s'organisent face à ces interdits. Elles aident les autres femmes, et c'est comment voilà, comment elles y arrivent, comment comment elles elles sont entre elles solidaires, sorores, voilà, et, etc.
C'est juste une question que je me posais là tout de suite, notamment avec la présidence maintenant de Javier Milei. Comment ça se passe en Argentine? Est-ce qu'il y a eu un recul sur ces questions ou est-ce que le droit à l'avortement est toujours...
Il n'y a pas encore eu de recul. Pour l'instant, il n'a pas la majorité au Parlement. D'accord. Donc pour l'instant, il n'a pas vraiment réussi à parvenir à ses fins dans tous les domaines où il voulait. Ceci dit, il y a une dérive autoritaire du pays quand même. Globalement, comme il n'a pas la majorité, il a dit qu'il fonctionnerait sans le Parlement, donc plutôt en faisant des décrets. Il est contre l'avortement, il l'a dit, il considère que c'est un crime et il l'a dit. Il est très misogyne et pour l'instant, donc, il n'y a pas de remise en cause concrète, mais qu'est-ce que ça pourrait donner? Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, en fait. Beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, ne serait-ce que est-ce que ça va continuer à être garanti? Est-ce que les médicaments vont continuer à être produits? Ouais. Voilà, des choses comme ça.
Est-ce qu'une femme réalisatrice obtient un autre film, en fait, un regard différent qu'un homme réalisateur? Les langues des femmes se délient plus facilement?
Alors là, en l'occurrence, ce groupe-là était très... voulait vraiment... Enfin, les hommes ne participaient pas à ce groupe-là. Donc je ne pense pas que des hommes auraient pu filmer leurs réunions comme je les ai filmées. Ça, c'est assez certain. Ils auraient pu faire des interviews, ce que je n'ai pas du tout fait. En fait, moi, j'ai vraiment fait un film en cinéma direct. Et ça n'aurait pas été possible de la part d'un homme. Peut-être un homme trans. Là, je pense qu'il y avait des possibilités, mais un homme cisgenre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Concrètement, il y a un homme qui a fait un film à peu près au même moment, à peu près sur le même sujet, et les approches étaient différentes. Je dis pas que c'était parce que c'était un homme et moi une femme, mais en tout cas, ça a donné deux films différents. Et c'est toujours le cas quand il y a deux réalisateurs ou réalisatrices qui font deux films sur le même sujet. C'est toujours différent. Mais lui, c'est vrai que son film montrait plus les femmes victimes de l'avortement clandestin. En parallèle avec les femmes qui luttaient d'ailleurs, les manifestations, mais aussi beaucoup des femmes, elles étaient mortes dans des conditions horribles, etc. Et moi, c'est vrai que je me suis vraiment plus concentrée sur la lutte, sur les femmes qui s'organisent face à une injustice, face à une oppression. Donc c'est voilà, on peut voir ça différemment, mais un homme aurait peut-être pu faire la même chose, sauf qu'il n'aurait pas forcément eu accès, comme moi, à ce groupe.
Et plus généralement, on y revient sur la réception critique des œuvres en général. Est-ce qu'elle se fait aussi sous le prisme du genre? Est-ce qu'il y a une différence sur quand c'est une femme qui crée? Est-ce qu'elle est elle est encore plus soumise à la critique?
C'est difficile,
notamment venant des hommes,
de répondre à cette question. Après, c'est vrai que beaucoup de dans la photographie documentaire, c'est vrai que il y a sûrement plus de femmes qui ont fait des projets personnels sur les femmes. Est-ce que du coup, un homme pourrait pas faire un projet photographique ou documentaire sur la condition des femmes? Je pense que si, mais au niveau de la critique, c'est très difficile à dire parce qu'il y a toujours. Moi, j'ai pas contact direct avec le public au niveau de la photographie, enfin sauf dans le cadre d'une exposition, mais dans le cadre d'un article, par exemple, je sais pas si la critique est différente si c'est une femme ou un homme. Par contre, on nous pose énormément cette question. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on photographie ou est-ce qu'on filme différemment quand on est une femme ou quand on est un homme? Et ça, je pense que les regards ne se distinguent plus autant qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des hommes qui font des sujets très sensibles sur des problématiques féminines, et il y a des femmes photographes de guerre qui font des travaux complètement hallucinants sur des terrains qu'on pourrait croire réservés aux hommes. J'ai l'impression que de ce côté-là, ça avance, et que plus ça va, moins les regards sont genrés. Bon, en tout cas, ou c'est peut-être moi qui ai envie de le voir comme ça, mais
ça donne de l'espoir.
Ça donne de l'espoir.
Oui. On avance.
En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois dans mon domaine. Je sais pas.
Il y a beaucoup de femmes qui sont photographes de guerre.
Et oui, il y en a de plus en plus.
J'ai remarqué ça dans les médias. Il y en a beaucoup.
Laurence G, Véronique de Vigerie, c'est des femmes qui font des reportages en Afghanistan sur des terrains de guerre. Moi, je vous mets au défi, je mets leur reportage à côté de photos faites par des hommes photographes de guerre, honnêtement, on peut pas vraiment dire bon bah ça, ça a été fait par un homme et par une femme. Et tant mieux, parce que j'espère que ça sera bientôt plus un sujet et que on regardera les images et le sujet et la manière dont il a été traité. Et que plus ça ira, moins on regardera cette notion de genre. Voilà.
Si effectivement un jour on n'a plus besoin de distinguer ou de mettre en avant des jours voilà. autour de la création féminine, on aura, je pense, gagné. C'est-à-dire que ça se sera lissé aussi. Voilà.
Ce sera plus un sujet.
Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait.
Il y a encore du travail à faire pour déconstruire les stéréotypes.
Oui. Hein. Et puis il faut jamais baisser les armes parce qu'on sait que rien n'est jamais acquis
ça,
et qu'il y a plein de milieux. Vous parliez des publics qui, pour l'instant, ne sont pas encore très sensibilisés à ces sujets. Il y a énormément de gens pour lesquels il faut continuer à faire
bien
le travail.
Sûr, c'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation important.
Complètement.
De transmission.
Qui doit se faire dans les établissements scolaires, mais malheureusement, il n'y a qu'un petit pourcentage qui se réalise dans les établissements scolaires. Quoi.
De l'éducation sexuelle.
Oui.
Mm-hmm. Justement, dans les actions culturelles qui peuvent être mises en place, est-ce que vous participez, vous prenez part à des actions culturelles dans ce sens ? Moi, c'est pas de l'action culturelle qui va forcément dans ce sens, mais quand je mène un projet de création et où effectivement j'aborde certaines thématiques, souvent il y a effectivement un volet d'action culturelle, mais qui est associé à la création. Voilà. Donc sur un des prochains projets sur lequel je vais travailler, qui s'intitule Les Vaillantes, il est question effectivement de paroles de jeunes filles qui cherchent les voies de l'émancipation et comment ne pas être noyé leur corps, comment éviter que leur corps soit noyé dans leur décor, qu'il soit familial, sociétal, etc. Et là, effectivement, il va y avoir tout un travail d'action culturelle associé à la thématique de la création qui va se faire en parallèle, création théâtrale qui va se faire en parallèle. Voilà.
Alors, on parle aussi de baisse de financement au niveau de la culture et tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'avenir, hein ? Vous êtes optimiste ? Comment voyez-vous un petit peu la suite, hein ? Est-ce que vous pensez que ça peut évoluer, justement, la place de la femme ?
Bah là, en l'occurrence, en termes de cinéma, ça a plutôt évolué bien ces derniers temps. Donc maintenant, on n'est jamais ça va revenir en arrière à un moment, on le sait, ça revient toujours en arrière, donc faut pas lâcher. Même en termes de documentaires de création en général, on a des associations, une association de la boucle documentaire qui regroupe plein d'associations de France qui luttent vraiment pour que le documentaire soit financé autant que le cinéma de fiction, enfin autant non, mais disons qu'il soit pas complètement oublié et ça avance aussi. Enfin moi je pense que c'est des combats pas à pas sur des années. Enfin voilà.
Donc, on parle de combat, de lutte.
Oui, elle est un peu permanente en fait.
Oui, mais je pense que tout ce qui a été gagné, ça a été gagné parce qu'il y a eu des luttes. Hein. Mm.
Et c'était une des choses que je voulais montrer dans mon film, en fait. Ouais. J'étais pas là en 70, mais on parle tout le temps de la loi Veil, et c'est certainement la loi Veil, mais c'est parce qu'il y avait des mouvements populaires, il y avait énormément de personnes qui se mobilisaient, des foules entières de femmes, et évidemment d'hommes aussi,
le MLF,
le MLAC. Et c'est pour ça aussi que la loi elle a été adoptée, elle venait pas de nulle part et c'est des luttes immenses. Donc voilà.
Ouais, juste on entend en fond une chorale, hein.
Oui.
Une chorale, et donc on est accompagné par une chorale sur la place Jean-Marcelin à Gap où nous sommes en direct. Donc là, une autre question peut-être, Ingrid.
Alors notamment on a beaucoup parlé des mouvements MeToo récemment. Est-ce que ça a eu un impact dans vos professions respectives, que ce soit dans le théâtre, dans la photographie, je sais pas s'il y a eu un MeToo dans le théâtre, je sais pas s'il y a eu un MeToo dans la photographie aussi, il y en a eu dans le cinéma. Est-ce que
c'est en cours,
notamment en France, aux États-Unis on était peut-être un peu plus précurseur sur ces questions. Ouais. Est-ce que ça met un vrai coup de pied dans la fourmilière en ce moment, ou est-ce que il y a des milieux peut-être qui sont un peu plus dans l'attente, où ça n'a pas encore émergé? Ça bouge un peu partout. Alors ici, sincèrement, dans les Hautes-Alpes, moi, je ne sens pas de tremblement. Hein.
Oui, non, parce que
c'est à l'image aussi de notre milieu culturel. Enfin, on a d'autres soucis aussi d'invisibilité qui sont plus liés à notre géographie. Et ça, c'est un autre sujet. Ça fait des strates. Ça se cumule en tout cas en termes de difficultés. Après, ça bouge aussi effectivement dans le théâtre. Il y a eu des ondes. Hein, il y a eu des répercussions un peu partout. Mais c'est pas encore, je pense, acquis hein, pour les jeunes femmes qui arrivent dans les milieux artistiques et culturels. Je pense que la méfiance, la vigilance, elle doit rester vraiment là, parce qu'on sait qu'en plus, dès qu'il y a des périodes de crise, ce qui trinque en premier, c'est tous ces droits-là.
On le voit par rapport aux violences faites aux femmes. Là, il y a encore un gros travail à faire pour que les femmes prennent la parole et effectivement viennent même porte-plainte. Hein, pour porter plainte, il y a très peu de femmes qui portent plainte, parce qu'il y a tout un travail. C'est très complexe encore. Hein.
Alors, oui, moi, comme je travaille beaucoup, c'est vrai, sur ces sujets, notamment je fais le portrait de Judith Godrèche pour Le Monde, et du coup, moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus, en tout cas, on laisse de la place à ces témoignages et à cette parole-là. Mais bon, peut-être que moi je suis trop dedans et que du coup j'ai l'impression d'en entendre beaucoup parler, mais en tout cas là la vague lancée par Judith Godrèche, avant elle par Charlotte Arnoux, par toutes ces personnes qui ont témoigné, j'ai l'impression que plus ça va, moins on remet en question leurs paroles et plus on leur donne de la place dans les médias.
Oui, après il faut que ça atteigne un public.
Complètement, c'est ce qu'on disait.
Voilà, c'est la problématique pour les violences.
Il faut que ça enclenche un mouvement qui soit général uniquement réservé à un milieu. Et puis il y a des personnes qui ont accès aussi aux médias et qui peuvent.
Puis il y a aussi toute la problématique des femmes précaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue avec des enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau.
Et beaucoup de travailleuses pauvres, des femmes isolées.
Oui. C'est vraiment un problème très important et qu'il va falloir aussi y travailler, quoi.
Et je voulais juste ajouter, par rapport aux violences faites aux femmes, moi j'ai fait quelques projections dans des collèges de mon film, alors de Socolistas, mais aussi de celui sur les violences faites aux femmes. Et c'était très intéressant. Et j'étais pas seule. J'étais avec une association qui est venue présenter le violentomètre, offrir en fait un espace aussi de parole, c'est-à-dire pas juste on a un problème, mais si vous êtes confronté à ça, vous pouvez venir parler. Et je dois avouer que j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un dialogue intéressant avec les jeunes. Le violentomètre les a vraiment intéressés, et avec y compris des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait si on est dans le jaune? Voilà, donc on se dit et donc du coup très 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 fructueux. Je pense que c'est les actions artistiques, théâtre, photo, c'est des bons moyens de d'enclencher la parole. Après, il faut que les collèges aient les moyens, qu'ils aient le temps, mais quand c'est possible, c'est vraiment intéressant. Collège, lycée, évidemment.
Voilà. Le problème reste les moyens qui sont donnés aux associations et aux personnes qui veulent engager des actions, parce que il y a beaucoup de bénévolat. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de travailler.
Bien sûr. C'est un sujet, la précarisation.
Et oui, bien sûr,
dans le milieu culturel, on aurait bien aimé avoir le temps d'en parler aussi.
Au départ, en 73, le planning familial n'était qu'avec des bénévoles. Actuellement, il y a des salariés, mais encore faut-il qu'il y ait des subventions pour pouvoir payer ces salariés.
Eh bien, malheureusement, on va devoir clore cette table ronde. Alors, on va le rappeler, votre film, il sera présenté ce soir au cinéma Le Palace à 21h dans le cadre d'un ciné-débat en collaboration avec Féministes Vent Debout, qu'on vous appelle toutes et tous à aller voir cette projection. Et puis, on va faire une nouvelle pause musicale, cette fois-ci avec l'artiste britannique Little Sims et le morceau Woman.
Got the men. melanin dripping, L-O-N-D-O-N-C-E-O, living in the back, looking like fire, chili pepper, Europe I girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone, looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest, got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily, innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you blow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
All the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side.
RCF, fréquence Mistral, RAM 05.
C'est Radio Chorale.
En direct et en public.
Vous venez d'écouter Little Sims et son morceau Woman, un morceau qui célèbre les femmes fières, qui inspirent et forcent le respect.
Alors, nous abordons cette troisième table ronde pour aujourd'hui, cette journée du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes, avec la place des femmes dans le travail et l'entrepreneuriat. Et nous sommes toujours en compagnie de Josette Marc qui est restée. Merci d'être restée à ce micro. Audrey Roussel, co-directrice de Co-Odyssée, et Aurore JM pour le syndicat Solidaires 05. Merci d'être autour de ces micros. Alors, nous allons nous tourner vers Co-Odyssée, peut-être, avec avec donc Audrey Roussel pour vous présenter. Vous êtes co-directrice de Coédicé et nous allons parler de la place. Reprenez-moi alors, dites-moi.
Oui, bonjour. Donc, Audrey Roussel, je suis entrepreneur salarié à Coédicé en tant que consultante en accompagnement de projets collectifs et également en charge de l'accompagnement des entrepreneurs et associés de la coopérative.
Alors, la place des femmes dans l'entrepreneuriat pour Coédicé, c'est un sujet qui est important.
Oui, c'est un sujet important et je dirais depuis la création de Coédicé en 2009, parce que on a noté que depuis, il y a environ 60% des entrepreneurs de la coopérative qui sont des femmes. Et ça se reflète d'année en année à peu près ce pourcentage-là.
Chez Coédicé, vous avez notamment monté un projet qui s'appelle la coopérative éphémère de femmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce projet, nous en parler, nous dire un petit peu cette année, notamment aussi quelles seront les étapes pour les femmes qui y prennent part.
Oui, tout à fait. En fait, on est parti du constat de ce besoin d'accompagnement un peu renforcé, spécifique des femmes pour profiter d'une opportunité nationale de développer des coopératives éphémères pour permettre à des personnes de s'essayer à l'entrepreneuriat en conditions réelles. Et donc nous, dans les Hautes-Alpes, on a choisi de le faire exclusivement en faveur des femmes. Et donc c'est sur une période de 10 jours, on propose à des femmes de créer une coopérative ensemble, en réel, sur un produit qu'on choisit en avance, et de tester, de passer par toutes les étapes de la création et d'une entreprise, trouver le nom de l'entreprise, créer sa marque, étudier son marché, sa clientèle, ses fournisseurs. Une journée sur le financement, études prévisionnelles, la production, la vente, pour arriver à la clôture comptable et au partage des bénéfices s'il y en a.
Est-ce que vous avez bénéficié de financement pour pouvoir mettre ce dispositif en place?
Oui, tout à fait. Donc depuis 5 ans qu'on met ces coopératives éphémères en place, on est financé principalement par l'État, la région, dans le cadre des financements égalité professionnelle femmes-hommes, et ainsi que de la politique de la ville, communauté d'agglo.
Et justement, cette question de l'égalité professionnelle femmes-hommes, qu'en est-il au niveau départemental notamment? Quelle est la place des femmes dans l'entrepreneuriat dans les Hautes-Alpes?
Alors, dans les Hautes-Alpes, il y a un taux d'emploi inférieur chez les femmes aux hommes par rapport aux hommes, mais ça c'est au niveau national. Et on pourrait dire qu'il est moindre dans les Hautes-Alpes. Et vu l'orientation du département sur la sphère des services, les femmes sont plus enclines à accepter des CDD temps partiel dans les services et dans le social. Et puis en fonction aussi de la saisonnalité des activités dans le département qui est très prégnante. Et puis elles sont aussi plus enclines à accepter des contrats un peu de déclassement, vu le peu d'offres d'emploi qualifiées qu'il y a sur le département par rapport à leur diplôme.
Est-ce que c'est une question de confiance en elle ou de valorisation, de sa propre, enfin de connaître sa propre valeur?
Eh bien, on note effectivement ce frein qui est très fort dans l'entrepreneuriat féminin, qui est par rapport aux hommes. Il y a des études nationales qui ont été faites sur ce sujet. Une plus grande peur de l'échec et une appréhension du poids des responsabilités et du stress, mais notamment en phase amont, avant de se lancer et dans les premières années d'activité. Et en fait, cette différence a tendance à s'effacer au fur et à mesure qu'on avance dans l'entrepreneuriat.
Et justement, quels outils vous utilisez à Coédicé pour justement donner confiance, donner de la légitimité à ces personnes qui ne se sentent pas prête à se lancer dans une activité?
Eh bien, on propose, et c'est la spécificité des coopératives d'activité et d'emploi, un accompagnement tout au long du parcours de la personne qui entreprend, du début, on va dire, en phase même amont, et tout au long, puisqu'après on devient, quand notre activité est lancée et marche, on devient entrepreneur salarié.
et en CDI, donc jusqu'à la fin du CDI, si fin il y a. Donc un accompagnement, et puis aussi c'est tout un réseau, un collectif d'entrepreneurs. On est actuellement une soixantaine d'entrepreneurs. On s'entraide, on échange, on partage les mêmes problématiques. On propose aussi des formations et on mutualise de nombreux services sur l'entrepreneuriat administratif, etc.
D'accord, et on y revenait. Vous, comment personnellement vous en êtes arrivé dans cette structure-là, Co-Odyssée?
Ouais. Donc moi, pas mal de personnes, j'étais salariée auparavant dans diverses structures. Et puis petit à petit, une évidence s'est imposée à moi. J'avais envie de développer ma propre activité, mais dans un cadre collectif. Et j'avais envie de développer selon mes valeurs, etc. Et je me suis tout de suite tournée vers Co-Odyssée, puisque moi, mon activité, elle est dans le champ en plus de l'économie sociale et solidaire. Donc pour moi, c'était une évidence que d'aller vers Co-Odyssée, et j'y ai trouvé l'accompagnement nécessaire, et ainsi que auprès d'autres partenaires de la création d'entreprise, BGE notamment, avec ses conseils sur GAP pour tout ce qui est la partie études de marché.
Et on parlait tout à l'heure justement de la coopérative éphémère de femmes. Est-ce que vous avez cette année, est-ce qu'elle a à nouveau lieu? Et quelles seront un peu les étapes de cette coopérative cette année?
Oui, tout à fait. Elle va avoir lieu très bientôt, au mois d'avril, donc du 5 au 18 avril. Et là, on est en phase de recrutement des personnes. Donc, elles ont jusqu'à lundi pour postuler. Après avoir participé à des réunions d'information, on va recevoir chacune en entretien, puisque je pense qu'on va devoir faire une sélection. On peut prendre un groupe maximum de 10 femmes pour lancer cette coopérative. Parce qu'après, il est important que le groupe ne soit pas trop important, puisqu'après, il s'agit de prendre des décisions à plusieurs. Alors, on utilise beaucoup d'outils d'intelligence collective, de méthodes par l'expérience et par le fait de... On amène les femmes à s'interroger, à se poser leurs propres questions pour qu'elles puissent se construire elles-mêmes leurs réponses. Et également, on les met en lien avec tout le réseau des partenaires à la création d'entreprises qui existent sur le département.
J'avais une dernière question sur cette coopérative, justement. Est-ce que à l'intérieur de cette coopérative, vous menez des actions de sensibilisation, notamment sur les violences sexistes et sexuelles en entreprise, ou sur toutes ces questions inhérentes?
Eh bien, le calendrier est très serré, le planning est très chargé dans la coopérative, donc on mène pas d'action spécifique là-dessus, mais au cours des discussions, le sujet peut arriver.
Merci Audrey Roussel. Je vois que Josette Mars approuve ce qui vient d'être dit.
Bien sûr, oui, puisque moi je représente l'association Toutes pour Une, et Sophie Romains, qui est au départ de l'association, était aussi
co-animatrice
avec Audrey. Donc c'est à la suite de ce travail. Elle a dans l'association, elle a organisé au départ une médiation santé avec des femmes issues de l'immigration, notamment de l'Afrique subsaharienne, qui était à Gap, et avec un financement de l'ARS. Et en 2019 et en 2021, elle nous a proposé effectivement, si les administratrices qui étaient dans l'association étaient d'accord, pour monter une expérimentation pour une biscuiterie d'insertion. L'expérimentation a eu lieu, elle a été positive. Enfin, c'est une petite biscuiterie qui est capable d'accueillir 4 salariés. Mais le problème, c'est qu'on a fait un bilan après avec les financeurs. Ils nous ont félicité de ce qu'on avait fait, mais ils nous ont dit que cette année-là, en 2023, l'État avait décidé de ne plus financer de chantier d'insertion. Donc on est à nouveau tributaire des demandes de subventions qui, effectivement, sont assez lourdes à faire, parce que ça demande... Il faut faire les demandes et après il faut faire les bilans. Voilà. Et c'est un travail de bénévolat en plus. Voilà. Donc actuellement, on a Sophie Romains qui s'occupe de l'aspect technique. On a une salariée en contrat aidé et on a 2 stagiaires qui viennent de la mission jeune ou de Pôle emploi.
Est-ce que justement, au cours des années, parce que on peut peut-être dire depuis combien de temps cette coopérative éphémère existe-t-elle ?
Oui, on emmène à peu près une par an depuis 2019. Et la biscuiterie, je crois qu'on l'avait faite avec Sophie en 2020. L'année du confinement.
Oui, c'est ça.
On avait un peu bravé tous les interdits. Et donc, c'est suite à cette coopérative biscuiterie que le projet a grandi, s'est développé au sein de Toutes pour Une.
Ce projet de coopérative, il existe toujours. Il est toujours il existe toujours aujourd'hui.
C'est pas une coopérative.
Ah, ce n'est pas une coopérative. D'accord,
parce que vous parliez
de la coopérative.
Oui, c'est pas une coopérative, c'est l'association. Avec une expérimentation chantier d'insertion, mais nous ne sommes pas chantier d'insertion, okay. Nous sommes hybrides et on aimerait effectivement, pour l'instant, on se pose la question vers comment on va orienter la suite.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la biscuiterie est une entreprise d'utilité sociale sur le territoire.
Oui, complètement. Et en plus, ça répond vraiment à. Enfin, la vente des biscuits marche très bien parce que c'est des produits locaux. Avec un circuit court, zéro déchet, enfin vraiment, c'est voilà. Et les biscuits sont excellents. Hein. Ils sont en vente à la Saint-Marcande et à Échangeons le Monde.
Vous faites bien de le préciser, voilà. Josette. Merci beaucoup.
On parlait d'Échangeons le Monde, c'est justement le moment d'entendre la capsule de François Legat et Annette Ritt qui vont nous parler un peu de la situation des femmes dans le commerce équitable.
Le commerce équitable. Est un vecteur de changement, en fait. On a une approche qui est centrée sur l'autonomie, ce qu'on appelle l'empouvoirment des groupes marginalisés, dont les femmes. Et l'empowerment, ou l'empouvoirment en français, c'est la capacité des individus et des collectifs à agir pour assurer leur bien-être et leurs droits. Et surtout, à participer activement aux décisions. C'est-à-dire que, sur le plan politique, il y a des rapports de pouvoir qui changent. Et donc, ces rapports de pouvoir qui sont à l'origine de la marginalisation des femmes. Donc, dans les critères du commerce équitable, il y a une politique de non-discrimination. Non-discrimination de toute personne, hein, que ce soit sur une prétendue race, une caste, une origine ethnique, une religion ou le genre. Ou l'orientation sexuelle. C'est pourquoi nous avons une approche très, très globale sur l'égalité de genre à partir de, effectivement, ce combat des femmes. Donc, en fait, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est que déjà, Artisans du Monde, il y a 80% des bénévoles qui sont des femmes. Et une grande partie des producteurs sont, en fait, des productrices organisées en coopérative. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage important de femmes actives dans ces filières de production qui occupent des positions décisionnelles dans l'organisation. Et donc, comme elles participent aux décisions, elles obtiennent du pouvoir. Bien évidemment, tout ça, ça rejaillit aussi sur des notions comme la rémunération, qui est égale pour les femmes et les hommes qui occupent le même poste. La prise en compte de besoins particuliers des femmes, et notamment les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, des programmes de formation, et tout ça est contrôlé par un label qui s'appelle WFTO, World Fair Trade Organization, qui définit les principes du commerce équitable, et donc tous ces critères sont contrôlés régulièrement chez nos producteurs pour avoir une certaine confiance quand vous achetez un produit de commerce équitable, vous savez qu'effectivement, il n'y a pas de discrimination, notamment des femmes.
Oui, d'ailleurs, on dit bien que le commerce équitable redonne aux femmes le pouvoir d'agir et fait évoluer les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, je peux citer un petit exemple personnel. Je suis allée au Pérou et c'est vrai que les femmes étaient assez cantonnées à la maison. Mais à partir du moment où elles rapportent de l'argent, les hommes les regardent d'un autre œil et sont beaucoup plus ouverts. Et de plus en plus, les femmes prennent du pouvoir même dans les décisions. Beaucoup sont à la tête des organisations.
Ce combat pour l'égalité de genre est à la croisée des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, des mouvements écologistes. Et à l'origine, il y a le patriarcat, forcément, qui est une organisation sociale où l'homme détient tout, et surtout le pouvoir sur tout. Et donc, l'expansion capitaliste aujourd'hui s'est construite sur cette dévalorisation des femmes et de leur travail, et de leur travail invisible, non rémunéré. Quand on travaille dans le domaine du commerce équitable, on facilite l'accès à des postes de décision pour les femmes, on facilite le renforcement des compétences, le renforcement de l'estime de soi. Et dans les faits, aujourd'hui, dans le commerce équitable, 74% des productrices et des travailleuses sont des femmes. 54% des postes d'employés expérimentés sont occupés par des femmes. Et une femme a 4 fois plus de chances d'occuper un poste à responsabilité que dans le commerce conventionnel. Ces chiffres-là sont clairs. Le commerce équitable est effectivement un vecteur de changement, comme je l'évoquais au début.
Dans le commerce conventionnel, il y a 12% de sièges qui sont occupés par des femmes. Dans le commerce équitable, 51%. Les femmes PDG, il y a 9% dans le conventionnel, 52% dans... C'est un tableau très parlant. Et tout ça, c'est grâce à la garantie, le WFTO dont a parlé François, qui oblige, entre guillemets, dans ses statuts, à ce que les femmes soient à l'égal des hommes, entre guillemets. Alors, par exemple... Core The Jute Works, excusez-moi l'accent anglais, qui est au Bangladesh, eh bien, c'est une communauté où il y a énormément de femmes. C'est elles qui ont le pouvoir et qui travaillent avec tous les groupes marginalisés, dont les femmes, évidemment, aussi les personnes handicapées et les communautés autochtones. On peut citer, que j'ai visité aussi, Fairtrade Lebanon, qui est au Liban, et une organisation assez récente qui fait des fruits secs au Colombie, Fruandes. Aussi, beaucoup, ce sont des femmes qui ont lancé l'organisation. Et ce sont les femmes qui fabriquent les produits et qui font marcher la boutique. Voilà.
Alors, on vient d'écouter Annette Ritt et François Leguette de l'association Échangeons le Monde. On va revenir à notre table ronde avec Aurore Gienne du syndicat Solidaire 05 qui est aussi présent aujourd'hui sur la place Jean-Marcelin. On va vous laisser vous exprimer sur la question du travail et notamment des femmes et des familles dans le travail.
Merci. Bonjour. Donc nous sommes présents comme tous les ans à cette journée de grève féministe pour porter l'ensemble des revendications qui existent aussi bien dans le monde du travail que dans la sphère familiale ou sociétale. Donc pour Solidaire, l'essentiel de faire grève le 8 mars, c'est de porter l'ensemble des revendications et sur l'exploitation des femmes que subissent les femmes chaque jour, notamment en France, les emplois précaires, les emplois défavorisés, c'est les femmes qui les occupent, notamment des femmes racisées dans le domaine de l'éducation, les AESH, dans la restauration, dans la grande distribution. Il faut savoir que cette précarité est souvent aussi due à un temps partiel, qui est imposé, qui n'est pas forcément voulu par les femmes. Elles sont également 60% des femmes représentent le CDD aujourd'hui et 28,5% touchent moins que les hommes en salaire. Voilà, donc il faut le savoir. Elles sont aussi victimes du plafond de verre. Elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. D'ailleurs, des droits devraient être inscrits au Code du travail pour les victimes. En fait, on peut illustrer cette précarité financière sur une année. Les femmes travaillent gratuitement à partir du 6 novembre. Voilà. Donc la grève féministe pour nous est aussi un outil car le patriarcat est toujours omniprésent dans la sphère familiale et sociétale. La journée de la femme se finit pas à la sortie du travail, mais elle continue à la maison avec sachant que les femmes passent 3 heures par jour aux tâches domestiques, tandis que les hommes ils consacrent seulement 1h45. D'ailleurs, le corps médical alerte sur cet état de fait, sur les charges mentales et physiques qui pèsent sur les femmes et qui entraînent des risques, par exemple, de cancer ou autres. Dans la sphère sociétale aussi, le patriarcat est omniprésent et Solidaire s'engage auprès des femmes, notamment au droit aux femmes à disposer de leur corps. Il faut savoir qu'une femme toutes les 6 minutes se fait violer en France. Donc je vous laisse imaginer, calculer pendant le temps qu'on est en train de parler, combien de femmes sont victimes de viols. 80% de ces viols sont dus à l'entourage, aux personnes que ces femmes connaissent. On peut aussi également parler peut-être de l'IVG. Donc c'est vrai que la France aujourd'hui a décidé de constitutionnaliser la liberté garantie à l'IVG. Seul, on peut se poser la question des mesures qui vont être prises pour la mise en œuvre de tout ça. Voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a fait aussi un focus donc sur les femmes palestiniennes, comme vous avez pu le voir sur le stand. Donc ces femmes qui sont 70% c'est des victimes en premier lieu avec les enfants. Elles vivent dans des conditions innommables d'hygiène, avec des risques d'infection, elles sont obligées de s'occuper des enfants, elles sont obligées de s'occuper des personnes âgées, des malades et... Voilà. Donc là, par rapport à ça, on est aussi également un département où on accueille beaucoup de femmes migrantes. Donc là, notre questionnement par rapport à nos institutions, c'est qu'est-ce qu'il est proposé à ces femmes qui arrivent ici et comment elles peuvent accéder à une vie digne. Voilà.
C'est Merci. L'objectif de la biscuiterie pour certaines.
Oui.
Voilà, tout mais en sachant qu'on peut les embaucher que si voilà. elles ont des papiers.
Et oui.
Et oui.
Bien sûr. Donc les autres font des ménages dans les stations.
Merci beaucoup Aurore GM pour Merci. Le syndicat solidaire 05. Merci aussi à Audrey Roussel pour Co-Odyssée. Et je recherche votre prénom, Josette Mars. Merci Josette Mars. Voilà, nous allons accueillir Litera 05 pour une manifestation. On va avoir une lecture à propos donc, eh bien, qui nous parlera du sujet de cette lecture. Et je vais donc vous laisser vous installer. Donc, je vois Annette Ritt. Hein. Bonjour Annette.
Bonjour, Colette Lagier.
Colette Lagier, voilà, merci à toutes les deux d'être autour de nos micros. Et expliquez-nous un petit peu le rendez-vous de cette lecture. Hein.
Alors, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Litera 05 a choisi de rendre hommage aux femmes afghanes et iraniennes qui se battent pour leur liberté.
Donc, ben, nous écoutons et nous vous écoutons dans cette lecture.
Zainab Jalalian, incarcérée depuis 2008, la militante féministe kurde de 41 ans est la plus ancienne prisonnière d'Iran. Je suis une femme kurde, témoin de nombreux crimes dans les prisons de la République islamique au cours de mes 16 années de détention. J'ai été témoin d'humiliations, de fausses accusations, d'insultes et de tortures infligées aux prisonniers. Mais surtout, j'ai été témoin de l'exécution de mes co-détenus. Existe-t-il une douleur plus grande que celle-ci? Malgré cela, c'est à moi qu'il est demandé par mes bourreaux de me repentir. Moi qui ai vu tant d'injustices de mes propres yeux, est-ce à moi d'exprimer des regrets? Parfois, je me demande dans quel espace-temps je suis bloquée et dont je ne parviens pas à m'échapper. Pourquoi devrais-je être le témoin de la destruction de mes semblables et de mes proches? Peut-on ainsi continuer à être le témoin silencieux de telles injustices? La guerre, la torture, les meurtres et les massacres se perpétuent et les oppresseurs trouvent toujours des justifications à leurs crimes. C'est douloureux, mais ainsi va notre vie. Malgré cela, je n'ai jamais souhaité la mort de mes agresseurs. J'aimerais que nous luttions ensemble pour les jeter hors de nos terres, pour ne pas avoir honte devant les générations futures. Derrière ces murs, je vis en attendant le jour où je viendrai vers vous, les bras chargés de fleurs, et je m'inclinerai humblement devant vous, offrant un bouquet de jasmin à vos cœurs généreux. Debout jusqu'à la victoire, je me tiendrai toujours du côté des opprimés et des combattants, qui lutte contre l'oppression et la tyrannie.
Et un autre petit extrait, pour vous donner envie de nous écouter ce soir. Dans les rues de Téhéran, Nila. Un jour, alors que je marche dans l'une des rues menant au boulevard, une jeune fille passe en courant à quelques mètres de moi et fait voler le turban d'un mollah. On a commencé à faire tomber les turbans deux ou trois semaines après le début des manifestations. Tous les jours, quand je vois un mollah, je m'attends à cette scène, mais à chaque fois que cela arrive, je reste bouche bée. Je suis à quelques pas derrière le mollah quand la jeune fille me dépasse comme une fusée et saute juste derrière sa tête. Comme une joueuse expérimentée qui aurait attendu ce moment depuis des années, avec envie, colère et satisfaction, elle lance le turban en l'air d'un geste net et incisif. Et elle s'enfuit en courant
dans un mouvement plus net et incisif encore, avec un mélange de gaieté et de terreur devant la mort, comme on en voit peu dans la vie de tous les jours. À chaque fois, c'est suivi de la clameur et des encouragements des passants qui font trembler la rue. Chacun des mollahs qui se penche alors pour ramasser son turban assiste à la manifestation éclatante d'une réalité abominable. À un tel degré d'espièglerie, de témérité, la situation devient alarmante. Et pour un mollah effrayé qui se trouve à la tête du régime, il n'y a plus qu'une solution, la vengeance. Un tout petit poème pour finir. La nuit, les étoiles brûlent de douleur avec nous. La nuit, les nuages pleurent de chagrin avec nous. La nuit, les feuilles tremblent de peur avec nous. La nuit, les vents soufflent de rage avec nous. Et nous, dans les ténèbres de ces nuits, débordant de cris sans voix, avec la torche de nos prières, c'est l'aube que nous attendons. Donc c'est ce soir lecture à la Nouvelle Librairie, vous allez le dire.
À quelle heure ?
À 18h30.
À 18h30, la Nouvelle Librairie, cours Victor Hugo, à Gap.
Eh bien, merci Annette pour
vous.
Ces lectures, Colette Lagie également. Et puis,
il est temps de conclure.
Il est temps de conclure, exactement. Malheureusement, nous n'avons pas pu être exhaustifs, mais nous avons pu traiter tout ce qu'on pouvait.
On a essayé d'ouvrir des portes.
On a essayé d'ouvrir des portes, voilà. On va passer aux remerciements. Donc, nous allons remercier Johanna de la Rosa de la DDETSPP, Delphine Defrat du SPIP, Angélique Lambert du CIDF F05, Cécile et Florence Brochoire, la réalisatrice Caroline Kim Morange, qui est venue avec Josette Mars de Féministe Vent Debout, Audrey Roussel de Coodyssée 05, Aurore Giem de Solidaire, et puis Annette Ritt et Colette Lagier de l'association Littera 05. On remercie aussi.
Merci pour cette collaboration, voilà, entre les trois radios. RAM 05, Fréquence Mistral et RCF Alpes-Provence.
On va remercier aussi le bar Le Magon, grâce à qui on a eu des parasols qui se sont transformés en parapluies et grâce à qui on a pu continuer cette émission.
Et puis le café crème pour les tables et les chaises.
Et la chorale qui nous a accompagnés aussi à un grand moment pour aujourd'hui.
À très bientôt.
RCF Alpes-Provence,
Fréquence Mistral,
RAM 05.
Émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Une émission en direct et en public, place Jean Marcelin à Gap.
Émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale
pour les droits des femmes.
En direct et en public, Radio Chorale, l'émission qui secoue ton bocal.
RAM 05, RCF, Fréquence Mistral, c'est Radio Chorale.